Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À l'heure de la slow food, de la slow attitude, de la slow mode, bref, à l'heure où tout le monde essaye de ralentir, un livre vient de paraître, nous invitons bien au contraire à nous réjouir d'être dans la hâte. La hâte serait selon son auteur le temps profond de l'homme, une sorte de temps existentiel, celui dit-on qui file, insaisissable, un temps qui, loin de nous angoisser, mettrait en valeur et aiguillonnerait notre quotidien et nos vies, un temps presque biblique au dire même de cet auteur, décidément original. La hâte, un temps pour l'homme, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour nous en parler Henri Bialoc, qui est psychologue et psychanalyste, enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales de l'Institut catholique de Toulouse, et donc auteur d'un ouvrage, La hâte, un tempo pour aujourd'hui, paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue donc dans cette émission Vivante Église. Charge à vous donc de nous faire rentrer dans cet apparent paradoxe. Voilà, la hâte serait en fait une bonne nouvelle, alors que dans le fond, on a l'impression de tous mal le vivre ou de s'en plaindre. Ma première question sera très simple. Est-ce que vous avez conscience que vous jetez un petit pavé dans la mare, selon cette expression si chère aux journalistes, en parlant de la hâte comme d'une bonne nouvelle ?
Oui. Oui, bien sûr, puisque effectivement, cette question de la hâte surprend, puisque aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un monde de rapidité, de vitesse et même d'immédiateté. Alors, trop vite, on interprète la hâte comme quelque chose de l'ordre de la précipitation. Et donc, dans ce sens-là, on peut penser que le thème de la hâte serait une sorte de thème presque conformiste, presque adhérent, presque qui se conforme à cette exigence dans laquelle on est, avec en particulier les nouveaux systèmes de communication, d'aller vite et d'aller de façon pratiquement immédiate. Alors si effectivement la hâte, c'est ça, il y a une sorte de conformisme à cette idée-là, et ça ne vient pas rejoindre le fait qu'on devrait au contraire prendre le temps des choses, s'arrêter pour juger et jauger ce que l'on vit, et que dans ce sens-là, il y aurait une sorte de, comment dire ça, de contradiction à venir, s'opposer avec le thème de la hâte à la réalité ambiante. Or, c'est effectivement ce que je propose. Je propose de s'opposer, avec ce thème qui a l'air d'y ressembler, à la réalité ambiante.
Alors j'aimerais aussi, peut-être deuxième question d'introduction, revenir sur une courte phrase que vous citez dans votre introduction. « Le temps est un précipité de l'essentiel ». Voilà, toute une partie de l'émission sera une réflexion autour du temps. Est-ce que vous pouvez nous peut-être commenter cette courte phrase « Le temps, un précipité de l'essentiel »
Alors, c'est le temps de la hâte qui est un précipité de l'essentiel. Le temps, en fait, c'est la condition de notre vie et c'est en même temps ce qui nous permet d'être vivants. C'est-à-dire qu'au fond, on est situé dans une temporalité. Et la prise de conscience de cette temporalité avec une finitude, avec le fait qu'on a une temporalité, on a un temps qui est fini, qui a une fin, qui a un bout, le bout de la vie, c'est cette prise de conscience qui nous incline, qui nous incite, qui nous invite à trouver, si on peut dire, la vérité de ce que l'on a à vivre. Et c'est ça que moi j'appelle l'essentiel. Alors le précipité, c'est la concentration, c'est la mise, si on peut dire, en évidence, comme en physique ou en chimie, c'est la mise en évidence de cette réalité de l'essentiel à travers le fait qu'on en a pris conscience et qu'on le cherche. Donc on cherche l'essentiel à partir de cette réalité d'un temps fini.
Et c'est-à-dire en fait que dans votre travail psychologique et psychanalytique, c'est une donnée de base de l'accompagnement que d'aider les personnes à rentrer dans cette conscience du temps, ou est-ce qu'en fait les gens viennent avec cette angoisse ? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Alors c'est un peu étrange, il ne s'agit pas tellement d'aider les patients ou les personnes qui viennent consulter à prendre conscience du temps. Par contre, il s'agit de leur permettre de s'y inscrire, en le prenant en compte, c'est-à-dire prendre en compte le temps que l'on a, sans pour autant en avoir une conscience aiguë et une conscience vive. Donc il s'agit de repérer, alors le terme est un peu très technique, l'effectivité de la réalité du temps dans notre vie, sans pour autant que l'on en ait la conscience aiguë. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire avec le temps sans pour autant en être chaque fois obsédé. Et quel est l'exemple que je dirais? C'est l'exemple de la séance analytique. Elle a une durée, hein, soit la durée que l'analyste propose, soit la durée qui est, si on peut dire, inscrite, par exemple, entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Et donc le patient, l'analysant, celui qui parle, sait qu'il y a un moment où ça va s'arrêter. Et quand il commence à parler, il sait que ça va s'arrêter. Et cette réalité, sachant qu'il va s'arrêter, conditionne ce qu'il dit.
Si on avance dans votre ouvrage, je le dis, votre ouvrage est quand même un ouvrage de spécialiste, un ouvrage assez exigeant, voire très exigeant. Donc merci aujourd'hui de faire l'effort de vous mettre à notre portée. Toute la première partie, vous parlez de la hâte dans la psychanalyse ou la philosophie. Et puis vous commencez donc par cette citation ou cet exemple de Jacques Lacan. Voilà, donc grand, on va dire, l'une des grandes figures de la psychanalyse. Est-ce que vous pouvez nous résumer cet exemple des prisonniers et nous dire pourquoi vous l'avez cité au début de votre ouvrage et pourquoi il est frappant?
C'est Jacques Lacan qui, pour développer le thème de la hâte, raconte...
En deux mots, Jacques Lacan peut-être
c'est... Jacques Lacan, un psychanalyste qui est mort en 1980, à 80 ans environ, et qui a, si on peut dire, prolongé la théorie de Freud en essayant de l'accentuer du côté de tous les éléments relatifs à, dire, à l'intériorité psychique, au fait que le sujet est un sujet désirant et que ce qu'il vit, le sujet, est au-delà de ce qu'il sait et au-delà de ce qu'il croit. Autrement dit, il a essayé de donner à la psychanalyse sa puissance de profondeur, sa puissance aussi d'énigme, mais sa puissance aussi d'interprétation. Autrement dit, il a prolongé l'œuvre de Freud en insistant sur la dimension de l'inconscient et sur la dimension du sujet, hein, en tant qu'il est vivant, avec une part inconsciente en lui.
Alors, les prisonniers.
Les prisonniers, il s'agit de trois prisonniers qui doivent, si on peut dire, obtenir leur libération. Et pour obtenir leur libération, ils sont trois, ils doivent découvrir, si on peut dire, l'identification qu'ils ont dans leur dos. Dans leur dos, ils ont un point rouge, un point blanc ou un point noir. Ils ne le savent pas. Ils doivent découvrir quel est le point, quelle est la couleur des points qu'ils ont dans leur dos, en le déduisant de la couleur qu'ont les deux autres prisonniers qu'ils peuvent voir dans leur dos, en sachant que soi-même, on ne peut pas voir ce que l'on a derrière. Ça, c'est un peu la partie inconsciente. Et donc, il s'agit de trouver le plus vite possible, hein, l'énigme, de résoudre l'énigme, de savoir quelle est la couleur des points que l'on a dans le dos, pour être libéré. Et c'est le premier qui trouve cette réponse, qui, en s'acheminant vers la sortie, s'il a raison, sera libéré. Autrement dit, l'exemple, en sachant que l'énigme à résoudre est assez compliquée d'un point de vue mathématique, n'est pas obligatoirement explicite et obligatoirement fiable. Mais l'exemple veut montrer que la libération, hein, procède pour chaque sujet d'un se décider en toute hâte. À partir du moment où il a vu la situation, on leur a présenté la problématique, où il a compris, pris le temps, si on peut dire, de poser le problème en regardant les deux autres et en voyant leur attitude. Il s'agit pour le sujet de conclure. Donc il y a les trois temps que dit Lacan, voir, comprendre, conclure. Mais la finalité, c'est conclure en toute hâte. Et la conclusion débouche sur la liberté, sur la libération. Autrement dit, le se décider est un acte de libération de l'être humain. Bon, c'est ça l'exemple de Lacan, et il s'agit de se décider en toute hâte, puisque l'autre peut aller plus vite que nous.
Voilà, on y reviendra du coup dans le cours de cette émission, parce que derrière cette hâte, en tout cas ce qu'on entend là, c'est une manière aussi de prendre conscience de ce qui se joue, comme je le disais simplement en introduction, dans notre quotidien ou dans nos vies, au cœur de cette hâte. Voilà, on pose des actes importants, et peut-être de mieux le réfléchir, ça peut aider à les poser avec plus de justesse. En tout cas, c'est ce que j'ai compris en lisant un petit peu votre livre. Il y a au cœur donc de la hâte, voire même au cœur de nos existences, de l'urgence. Et cette urgence, vous la détaillez un moment dans votre ouvrage sur trois plans, le plan biologique, le plan social et le plan cosmique. Si on commence par le plan biologique, vous prenez entre autres cet exemple des urgences médicales. Le soignant agit, il acte sa réponse, il s'y rassemble, ses gestes montrent sa compétence et sa volonté de défendre la vie coûte que coûte. Et puis un peu plus tard, vous parlez de l'importance du travail de la parole. Est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi il y a de la hâte dans, on va dire, le niveau biologique de nos vies?
L'urgence est articulée sur l'idée de la mort, sur l'idée de la finitude, sur le fait que l'on a un temps déterminé. Et le premier lieu de cette détermination, c'est le corps, c'est le biologique. Son propre corps, le corps de l'autre, avec le fait que, au fond, il y a une, alors le terme est un peu technique, une corruptibilité de ce corps-là, c'est-à-dire qu'il se dégrade, hein, qu'il vieillit. Alors le corps propre, le corps de l'autre, les objets se corrompent au sens où ils vieillissent. Et donc la hâte d'un point de vue, on va dire, biologique, c'est prendre en compte cette réalité du temps dans notre corps et dans le corps de l'autre. Et la médecine en est un exemple important, en particulier dans les urgences médicales, où il s'agit de répondre à un appel, entre guillemets, du corps, hein, en toute hâte, pour pouvoir le libérer. Alors, pas tellement libérer de la vie, mais pour pouvoir lui rendre la vie et le libérer le sujet, et lui permettre donc de continuer à vivre. Donc, il y a une part première, hein, dans l'idée de l'urgence, c'est une idée qui est liée au biologique, à la réalité du corps en tant qu'il est corruptible et qu'il est voué, le mot est un peu fort, mais qu'il est voué à la mort.
Deuxième dimension, donc le temps social. Là, vous reprenez, alors dans ce passage de votre livre et puis à d'autres moments, vous n'êtes évidemment pas naïf, comme vous le disiez en introduction, sur l'accélération de notre monde. On y reviendra. Là, vous parlez du temps tout simplement passé devant les écrans. Vous recitez un chiffre, un jeune passé déjà en 2007, 4,2 heures par jour devant un écran. Qu'est-ce que vous diriez de cette hâte dans notre temps social ?
Alors, dans le temps social, il y a deux aspects. En premier, c'est le temps, on va dire, généalogique, le fait qu'au fond, notre social à nous, les êtres humains, c'est un social personnel, c'est un social familial, c'est un social généalogique, c'est un social sociétal. Donc, généalogique, ça veut dire qu'au fond, on fait partie d'une histoire, la nôtre, mais aussi celle de sa famille. Et là, il y a une durée qui est plus large que nous-mêmes. Ça, c'est le premier point du temps social, et dans lequel on est inscrit, même si on ne s'en rend pas compte. Et le deuxième point, c'est le temps, on va dire, sociétal, avec cette question de l'immédiateté. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'il y a une...
Dans le premier, il n'y a pas spécialement de hâte. Faire partie d'une histoire et d'une généalogie, il n'y a pas de hâte.
La réponse est oui.
Pourquoi ? Parce que si on dézoome à l'échelle de l'histoire longue, les choses sont courtes, c'est ça ? Ou nos vies sont courtes ?
Pas tellement, parce que si on zoome à l'échelle d'une histoire longue, on se rend compte qu'il y a des finitudes tout le temps, et que ce grand-père qui était important pour nous, un jour il est mort, et que ce grand-oncle qui a créé quoi que ce soit, on se rend compte qu'il est mort, et que cette personne dont on parle, on se rend compte que ça fait 2 siècles ou ça fait 40 ans qu'elle n'est plus avec nous. Donc il y a chaque fois une temporalité qui est, si on peut dire, qui marque, hein, la généalogie, qui fait que, indirectement et implicitement, elle nous induit à penser que notre temps à nous est fini, de la même façon que les ancêtres, les ascendants, mais aussi les descendants, nos enfants, c'est terrible à dire, sont, le mot est horrible, voués à la mort, de la même façon que nous sommes voués à la mort. Et on se l'avoue ou on ne se l'avoue pas, mais c'est effectif. Et c'est effectif dans notre façon de voir les choses, même si, on se le cache plus ou moins, il y a quand même cette réalité. Donc, même dans la généalogie, il y a de la hâte. Et alors, dans la société, il y a bien sûr de la hâte, avec le fait, alors pas tellement de la hâte, il y a de la précipitation et de l'immédiateté.
Quelle différence vous faites entre la hâte et la précipitation ?
La hâte, c'est la question de... c'est une subjectivation du temps. La hâte, c'est le temps du sujet. C'est comment je me situe, moi, dans ce que j'ai à vivre, en me donnant le temps de le vivre, en sachant qu'il est fini, ce temps-là. Autrement dit, il y a une dimension personnelle dans ma façon d'habiter le temps qui m'est donné et que je vais prendre. Donc le temps qui m'est donné, il y a une dimension passive, que je vais prendre, il y a une dimension active. Et donc je suis dans une tension, si on peut dire, mais une tension personnelle. Alors que la précipitation et l'immédiateté, c'est, si on peut dire, le système, c'est le social, c'est le média qui, si on peut dire, m'impose quelque chose devant quoi je suis plutôt passif et pas tellement, si on peut dire, personnel dans ma façon de répondre. En particulier avec le téléphone portable, les écrans, avec qui je n'entre pas en relation. Je suis en interconnexion, je suis en communication, mais pas en relation. Dans le temps de la hâte, c'est un temps de relation entre soi-même et ces objets, ce que l'on fait ou ce que l'on rencontre, alors que dans la question de l'immédiateté ou de la précipitation, je suis, si on peut dire, l'otage de la situation dans laquelle, le plus souvent, on m'a mis, le social m'a mis.
Alors le dernier plan, ça serait donc le plan cosmique. J'avoue que ça m'a surpris au début. Et puis vous avez entre autres cette phrase, l'inexorabilité de la fuite en avant d'un univers en expansion constante de plus en plus rapide, aussi bien que celle de la mort annoncée pour chacun de nous, insuffle un sentiment tragique où la vie ne vaut pas la peine d'être vécue qu'en assumant la finitude qui s'y révèle, etc. etc. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne vit pas forcément avec la conscience qu'on est dans un univers en expansion et ce, de plus en plus rapide. Pourquoi est-il important pour vous de dézoomer jusqu'à l'échelle de ce plan cosmique?
Parce que c'est le fond, c'est-à-dire c'est la dimension profonde de la réalité du temps.
Alors rappelez ce qu'elle est déjà, peut-être pour ceux qui ne savent pas. L'univers est en expansion et ce de manière de plus en plus rapide.
L'univers est en expansion de façon de plus en plus rapide, les éléments s'éloignant les uns des autres, et l'univers n'est pas expansion dans le vide, il est en expansion dans lui-même. En ayant dit ça, c'est une énigme qui est à l'intelligence impossible à comprendre. L'univers est en expansion mais pas dans le vide, et d'une expansion en lui-même. Et que si on envoyait une fusée qui partait d'un point X et qui partait en ligne droite vers un temps, si on peut dire, le plus long possible, elle reviendrait à son point de départ.
Attendez, là, expliquez, j'ai pas compris.
Si l'on envoyait une fusée, si on demandait à une fusée de partir d'un point X, d'un point donné, et qu'on lui permettait de poursuivre sa trajectoire en ligne droite, le plus longtemps possible dans un temps qui n'est pas éternel, mais qui serait, si on peut dire, extrêmement long, on se rendrait compte, disent les physiciens, qu'elle reviendrait à son point de départ. Autrement dit, qu'elle n'irait pas dans un vide, si on peut dire, infini, ou le plus loin possible, elle reviendrait à son point de départ. Ça veut dire que l'univers, c'est une façon d'illustrer ce qui est énigmatique et impossible à comprendre, que l'univers est en expansion en lui-même, et non pas dans du vide. C'est ce que disent les physiciens. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas plus le dire que ça. Je peux simplement dire qu'il y a, par rapport à l'intelligence de la réalité du temps cosmique, quelque chose de difficile à comprendre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la vitesse fait changer le temps. C'est-à-dire qu'un temps X à une vitesse donnée n'est pas le même temps à une autre vitesse. Là aussi, essayez de comprendre ça. Donc, ça veut dire que plus on va vite, plus on va loin et vite, plus le temps, si on peut dire, change dans sa modalité. C'est un petit peu ce que tu apprends dans le film L'Odyssée de l'espace, où au fond, en ayant, on peut dire, voyagé dans l'espace, quand il revient sur Terre, alors que lui-même a passé par exemple 3 ou 4 ans dans l'espace, sur Terre, il s'est passé entre 50 et 150 ans. Donc, pour montrer la différente temporalité. Et c'est ce temps cosmique qui est le soubassement, on peut dire, du temps historique. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de compréhension du temps qui est à la fois plus profond et qui est en même temps au-delà de la réalité actuelle. Alors, à comprendre, c'est sûrement difficile, mais c'est surtout pour mettre en évidence qu'il y a un point d'appui qui est plus que notre repérage personnel. Le temps est plus que l'image qu'on s'en fait. C'est ça que ça veut dire.
On va faire une première pause et puis on vous retrouve. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La hâte, un tempo pour aujourd'hui. On va donc, maintenant qu'on a fait cette introduction, creuser cette notion avec vous et voir en quoi elle peut éclairer notre quotidien, même si on ne va pas chez un psychologue ou un psychanalyste. La hâte, un tempo pour aujourd'hui, paru aux éditions L'Harmattan.
Santo,
santo,
Señor Dios del universo, santo, santo,
santo,
Señor Dios del universo, llenos están cielos y la tierra de tu gloria, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Thank you. Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas.
Hosanna en las alturas.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La hâte, un temps pour l'homme, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, thème original s'il en est, avec ce matin donc Henri Mialoc, qui est psychologue et psychanalyste, auteur d'un ouvrage donc paru aux éditions L'Harmattan, La hâte, un tempo pour aujourd'hui. Je le disais, l'ouvrage exigeant, d'ailleurs paru à la collection Études psychanalytiques, mais ce matin qu'il nous rend accessible. Dans cette deuxième partie, donc, on va essayer de creuser cette notion de la hâte pour comprendre quelle implication elle peut avoir dans nos vies, et ce qu'il y a de bon de prendre conscience de cette hâte. Alors si je devais résumer, tenez, je vais essayer de résumer votre propos et puis comme ça vous pourrez le on va dire le représenter comme une baseline en début de cette deuxième partie. Vous disiez que dans la première partie il y a une différence fondamentale entre la hâte déjà et la précipitation. Voilà, dans un monde qui a tendance à vivre dans une précipitation que l'on subit ou souvent qui est une contrainte pour nous, la hâte serait en fait une temporalité comme au cœur en fait de nos vies. Hein, je le disais en introduction, c'est comme un temps existentiel en fait sous-jacent à chacune de nos vies, et à l'intérieur de ce temps qui est difficile en fait à comprendre et qui est pas forcément hanté mais en tout cas habité par la perspective de la mort, de prendre conscience de cette hâte, c'est une manière de vivre autrement. Alors comment, si vous deviez refaire une courte présentation, qu'est-ce que vous feriez comment vous prolongeriez ce résumé pour ceux qui nous rejoindraient maintenant dans cette émission?
Alors je le prolongerai avec cette expression qui est un petit peu compliqué à comprendre dans un premier temps. La hâte, c'est le temps de l'imminence de l'éminent. Alors l'imminence, c'est-à-dire que ça va arriver de façon soudaine, de façon rapide, de façon, si on peut dire, pressante. Ça, c'est l'imminence. Et de l'éminent, c'est ce qui est essentiel, ce qui est important. La hâte, c'est le précipité de l'essentiel. Ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est le temps de la hâte, donc c'est le temps du sujet, en tant qu'il sait que ce temps-là est déterminé et fini, et que puisqu'il sait qu'il est déterminé et fini, il doit, le sujet, se décider, si on peut dire, à vivre, si on peut dire, en vérité avec lui-même. Donc c'est le temps, c'est un temps subjectif, c'est un temps personnel, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas qu'un temps subjectif personnel, c'est un temps subjectif personnel, mais qui est déterminé par une fin, par une butée, par un point de finitude, lequel point de finitude va conditionner et va déterminer ce qui va se vivre dans ce temps-là.
Alors Henri Mialoc, une fois qu'on a dit ça, et donc je prolonge peut-être ma première question de cette deuxième partie, pourquoi est-il important donc pour vos patients et puis peut-être pour chacun de nous de prendre conscience de cela? Qu'est-ce que ça change en fait?
Ça change le fait que, sachant cela, il s'agit de se décider. Sachant le fait que notre temps est un temps à vivre en toute hâte, ça nous incline, ça nous invite à nous décider sur ce que l'on a à vivre. Donc se décider à...
Ne pas passer à côté de sa vie, comme on dit trivialement, c'est ça?
C'est exactement ça. Ne pas passer à côté de sa vie et pouvoir privilégier l'essentiel de ce que l'on souhaite, en sachant que c'est extrêmement compliqué à trouver l'essentiel de ce que l'on souhaite, mais du moins à tendre vers cette vérité de sa vie, à partir, si on peut dire, d'un temps déterminé. Donc il s'agit pour chacun de nous de nous décider, en fonction du temps que l'on a, d'une certaine façon de ne pas remettre à demain, de préserver l'aujourd'hui de ce qu'on a à vivre et de ne pas le différer à demain.
C'était le commentaire de l'évangile de ce matin, vous voyez, c'est...
Bon.
Comme quoi. Il y a un mot que vous reprenez, ou un triptyque que vous reprenez souvent dans votre ouvrage, donc, qui n'est pas de vous, qui est de Jacques Lacan, ce grand psychanalyste. Pardon. Vous l'avez déjà cité. Il y aurait trois temps, l'instant de voir, le temps de comprendre, le moment de conclure. Alors, on a presque l'impression que c'est une pédagogie ignatienne, pour ceux qui sont familiers de cette spiritualité jésuite. L'instant de voir, le temps de comprendre, le moment de conclure. C'est pareil, si on essaye de faire atterrir cette hâte dans nos vies, s'il est important, on va dire, de prendre conscience de cette hâte pour se décider à vivre réellement, éclairez-nous sur ce triptyque.
Ce triptyque, il va développer l'idée de l'action et non pas celle de la réaction. La réaction, ça serait une conclusion hâtive en fonction de ce qui nous arrive, devant quoi on réagit. C'est-à-dire qu'en fait, un événement survient et on a une réaction, par exemple une réaction de violence devant quelqu'un qui nous agresse. Ça, c'est une réaction. L'action, ce serait de repérer ce qui se passe, donc de voir, par exemple si on est agressé par quelqu'un, de voir ce qui se passe, si cette personne abuse, si cette personne est en colère, si on lui a occasionné une frustration. N'importe. Comprendre, c'est le deuxième point, c'est d'essayer, si on peut dire un petit peu en prolongement de ce que je viens de dire, de prendre le temps de déplier le problème, de savoir, si on peut dire, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire et adopter comme attitude en fonction de ce qu'on a compris. Et la conclusion, c'est d'adopter cette attitude-là. Donc il s'agit de voir la problématique, hein, de voir ce qui se passe, de prendre le temps de la déplier et ensuite de conclure. Et le temps de la hâte doit passer par ces trois temps-là.
Alors il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y a une forme de hâte en fait, au cœur de nos vies, et en même temps, il faut savoir quelque part ralentir au cœur de cette hâte pour bien poser nos décisions ou nos actes, c'est ça ?
C'est exactement ça, parce que à travers le présupposé de votre question, c'est comme si le temps de la hâte supposait qu'il fallait aller vite, hein, qu'il fallait, si on peut dire, alors que le temps de la hâte n'est pas obligatoirement le temps de la vitesse. Par contre, c'est le temps de l'urgence, et l'urgence, ça peut être l'urgence à réfléchir. L'urgence à rentrer en soi-même, l'urgence à aller se coucher parce qu'on se rend compte que notre façon, par exemple, de travailler, soit scolairement, soit estudiantinement, soit par rapport à sa vie adulte, on se rend compte que nos idées sont tellement en vrac qu'on n'a plus aucune disponibilité. Il est urgent d'aller, par exemple, se reposer, faire autre chose. Donc le temps de la hâte, c'est le temps de l'urgence, mais pas obligatoirement le temps de la vitesse.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple tiré de votre expérience professionnelle, sans évidemment donner de nom, qui dit ce que ça peut changer dans la vie de quelqu'un de prendre conscience de cette hâte qui n'est pas forcément...
Dans mon livre, je cite un patient, l'exemple tout à fait trivial, tout à fait ordinaire. Il raconte comment avant, donc il s'occupe de ses enfants, il est seul avec ses enfants. Avant, il ne travaillait pas, donc il avait une temporalité qui était un petit peu longue, qui n'avait pas tellement de bout. Et un jour, il a pris un travail. Et il dit, je me suis rendu compte que mon temps était déterminé et qu'il fallait que je fasse attention à ce que je vivais avec mes enfants parce qu'après, je partais au travail, parce qu'après, j'avais moins de temps du fait de mon travail. Et donc, je prends conscience de ce que j'ai à vivre à mes enfants parce que c'est, on peut dire, conditionné par une temporalité déterminée. Et ce patient qui était...
Rien de plus banal, si je peux me permettre quand même.
Pardon ?
Rien de plus banal, si je
c'est
peux me permettre.
Éminemment banal.
Oui.
C'est éminemment banal. Cette idée vraiment de penser que le fait qu'on se donne une détermination va nous induire une autre façon de vivre ce qu'on a à vivre.
C'est-à-dire que là, quel est le chemin que vous l'aidez à faire, ayant après cette remarque un peu...
L'analyste, d'une certaine façon, n'aide pas tellement le sujet à faire un chemin, il l'écoute dans le chemin que lui il fait, en accentuant tel ou tel aspect qui permet au sujet, si on peut dire, de reprendre une orientation en fonction de ce qu'on lui a accentué et qui est son propre chemin.
En tout cas, on peut imaginer que derrière cette remarque, du coup, il y avait comme une forme de prise de conscience de cette fameuse hâte. Alors, vous dites que pour comme bien éclairer notre agir, hein, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, vous nous direz, il y a certaines réalités auxquelles il faut être attentif, et il y en a une importante, c'est la place du plaisir dans nos choix. Vous faites une différence entre le plaisir et la jouissance. Est-ce que vous pouvez dire quelle est cette différence ?
Le plaisir, c'est une condition dans notre façon de vivre et dans notre façon, si on peut dire, d'investir les situations que l'on a, les situations professionnelles, familiales, intellectuelles, créatrices, artistiques. Le plaisir est nécessaire à notre façon d'investir. Et donc, c'est un élément à prendre en compte dans ce que l'on a, si on peut dire, à vivre. Quelque chose qui n'est pas fait, qui est fait sans plaisir, a une durée très courte, une durée de vie très courte. Quelque chose qui est fait avec plaisir peut avoir une durée de vie plus longue. Donc, le plaisir est d'une certaine façon le garant de la durabilité de ce que l'on investit, hein, y compris en amour, mais aussi dans son travail.
Pourquoi est-il important de le rappeler, ça? Parce que souvent parce on passe que, à côté ou...
Parce que trop souvent, le plaisir est d'une certaine façon pas condamné, mais du moins il n'a pas obligatoirement bonne presse parce qu'on l'entend comme un plaisir narcissique, comme un plaisir personnel, et on l'entend des fois comme une jouissance. Le plaisir s'oppose à la jouissance, et la jouissance c'est le pour-soi. La jouissance c'est la jouissance d'une drogue, de quelque chose qui est intérieur, qui est pour soi et par soi, et qui est fermé. Alors que le plaisir, c'est quelque chose qui se parle, qui se communique et qui se partage. Donc le plaisir est quelque chose de noble et de nécessaire. La jouissance, en tant qu'elle est fermée sur soi-même, est quelque chose de toxique et d'inopportun. Hein? Et c'est même quelque chose qui conduit à la mort. Donc il est important d'opposer le plaisir et la jouissance pour donner toute sa puissance au plaisir comme une condition. Je crois que c'est important pour nous, les êtres humains, d'interroger, de se dire quel est le plaisir que je prends hein, à ce que je vis. Et si je ne prends pas de plaisir, il faut m'interroger, je dois m'interroger sur ce que je vis là.
Hein. Vous disiez qu'il y avait différents critères, justement, pour vous me disiez ça en préparant cette émission, pour essayer de discerner ce plaisir. Quels sont-ils ?
Le principal critère pour discerner le plaisir comme un plaisir et non pas comme une jouissance, c'est qu'il est parlable, c'est-à-dire qu'on peut en dire quelque chose, hein, qu'il n'est pas, si on peut dire, qu'il ne doit pas être caché, hein, et qu'il est, si on peut dire, partageable. Ça, c'est le seul critère, c'est que l'on peut en dire quelque chose, le mettre à la lumière, hein, et la vérité vous rendra libre, et ce qu'on peut mettre en lumière est quelque chose qui, à ce moment-là, peut être partagé et peut être édifiant, au sens que peut nous remettre encore plus debout. Hein. Donc le critère du plaisir, c'est qu'il est parlable, on peut en mettre des mots, et partageable. Le critère de la jouissance, c'est qu'elle est fermée, qu'elle est secrète, hein, et qu'il est lié à soi.
Il y a aussi le bonheur. Alors, donc plaisir, jouissance, bonheur. Vous insistez aussi sur le bonheur en utilisant cette phrase donc de Paul Ricoeur, philosophe. Le bonheur est l'horizon à tous égards. C'est pareil. Si au cœur de, on va dire de cette hâte qui habite nos vies, on doit apprendre à voir, comprendre et décider. Si j'ai bien retenu ce triptyque. Le bonheur, il faut donc l'avoir aussi en tête. Vaste sujet. Comment vous commenteriez peut-être cette phrase de Paul Ricoeur que vous avez voulu citer ?
Il s'agit pour chacun de nous, alors c'est pour rester un petit peu dans le thème, de se hâter à se décider pour le bonheur. Il s'agit pour chacun de nous d'avoir cet horizon hein, qui est le seul horizon pour chacun de nous, c'est l'horizon du bonheur. Chacun de nous a droit, qui que l'on soit, a droit au bonheur. Et c'est un présupposé, un a priori, un soubassement d'existence.
Il a droit et il est fait pour ça.
Chacun de nous est fait pour le bonheur. Qui que l'on soit, où que l'on soit, quel que soit ce que l'on vit, nous avons tous hein, le droit à ce pourquoi nous sommes faits, le bonheur. Et ça doit être un a priori auquel c'est une exigence. Ce n'est pas imposé, c'est une exigence qui vient du sujet. Hein. On a tous le droit d'exiger, de pouvoir aspirer au bonheur. Tous. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que le bonheur, donc c'est le seul horizon, quand on dit l'horizon à tous égards, c'est le seul horizon au masculin, à tous égards, rien ne peut contrevenir à cette attente, cette exigence. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans le bonheur. Ça veut dire que le bonheur, c'est un horizon, donc c'est devant nous. C'est quelque chose vers quoi chacun de nous peut légitimement tendre. Et ça, je crois que c'est important parce que trop souvent, on ne le vit pas à ses propres yeux. Parce que d'une certaine façon, il ne s'agit pas de revendiquer le bonheur aux yeux des autres. Il s'agit de revendiquer le bonheur à ses propres yeux. De s'autoriser soi-même à aspirer au bonheur, même si on n'atteint jamais, c'est un horizon.
Vous voulez dire que souvent, c'est le chemin qu'on ne fait pas, c'est ça ?
Souvent, c'est le chemin qu'on ne fait pas, et souvent, c'est un chemin que l'on attend de l'autre, que l'autre nous donne du bonheur.
Alors qu'en fait, il s'agit, par rapport à la réalité de sa propre vie et de se décider soi-même, il s'agit de se mettre en perspective du bonheur, de se le poser à soi-même comme une exigence. Hein. C'est-à-dire que se donner les moyens d'aspirer, parce qu'il faut bien faire la différence entre aspirer et atteindre. Hein. C'est un horizon. Autrement dit, c'est un horizon, c'est quelque chose vers lequel on tend, hein, que, dont on s'approche plus ou moins. Hein. Mais cette exigence, c'est une exigence vis-à-vis de soi-même, et non pas vis-à-vis des autres qui devraient nous donner du bonheur. Ça, je crois que c'est important aussi de s'autoriser à être exigeant par rapport à soi-même sur cette aspiration.
Je voulais, pour finir dans cette deuxième partie, cette fois parler un petit peu de la lenteur. Mais est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à ajouter ? Puisque si au cœur de nos vies, il y a comme une forme d'urgence, donc que vous, vous appelez la hâte, et puis vous n'êtes pas le seul, enfin que la psychanalyse appelle souvent la hâte, qu'il faut donc apprendre au cœur de cette hâte à voir, comprendre, et c'est pas... Conclure, pardon, et ce, en vue du bonheur. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à rajouter dans cette courte leçon de vie, avant de dire un petit mot peut-être de la lenteur ?
À rajouter, je ne sais pas, mais du moins à prolonger. Hein, reprolonger cette idée que la psychanalyse met en exergue, met en évidence combien le cheminement d'un sujet le concerne lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, dans la dynamique, par exemple, de la hâte, d'insister sur le fait que le sujet doit trouver, c'est un peu étrange à dire ça comme ça, en lui-même ses propres ressources. Il s'agit d'insister sur le fait que nous sommes, nous, si on peut dire, les capitalistes de notre propre histoire. Nous sommes les détenteurs de notre propre trajectoire. Et qu'au fond, on a... un travail qui n'est pas un travail d'égoïsme, d'égocentrisme et d'un narcissisme au sens où on se replie sur soi. Pas du tout. Il s'agit de faire un travail d'intériorité pour, par cette intériorisation en soi-même, aller à la rencontre de l'autre. Mais vraiment comme préalable, si on peut dire, à la démarche de rencontre, à la relation, le préalable, c'est l'intériorisation, le fait de passer par soi-même. Je crois que dans la philosophie ou dans la démarche chrétienne, c'est quelque chose d'évident. Il s'agit de rentrer en soi-même pour pouvoir aller ensuite à la rencontre de l'autre, du frère, mais rentrer en soi-même pour trouver Dieu en soi. Et si on ne rentre pas en soi-même, c'est pas sûr qu'on rencontre Dieu.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Exit la lenteur, ce qu'on a compris en fait, que quelque part, en tout cas c'est pour résumer ce passage que vous avez sur la lenteur. En fait, la lenteur c'est juste une comme une déclinaison à l'intérieur de cette hâte du temps que l'on doit prendre pour bien discerner et pour agir avec justesse. On va faire une deuxième pause et pour parcourir un petit peu les écritures, puisque dans votre livre vous citez quelques passages biblique, la Pâque juive, les bergers, c'est d'actualité à l'occasion de Noël ou Zachée, et vous soulignez que dans ces textes, il est dit en hâte ou vite, preuve qu'au cœur même des Écritures, cette hâte existerait et qu'elle n'est peut-être pas étrangère au temps de Dieu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La hâte, un tempo pour aujourd'hui, paru aux éditions L'Harmattan.
Thank you. Présence dans le Comminges, 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
La hâte, un temps pour l'homme, c'est donc le thème original de cette émission Vivante Église ce matin. Je vous rappelle avec Henri Mialoc, psychologue et psychanalyste, auteur d'un ouvrage paru aux éditions L'Armatan, La hâte, un tempo pour aujourd'hui. Dans cette troisième partie, on va donc parcourir quelques récits bibliques que vous avez choisi de citer dans votre ouvrage pour nous montrer. Alors, je n'ai pas très bien compris quelle était votre intention profonde, on va peut-être commencer par ça. Anthropologie biblique de la hâte. Alors, on va dire dans un français plus accessible, quelle était l'intention en citant les Écritures comme ça? C'est de montrer qu'en fait, la hâte, ça serait aussi quelque part un peu le temps de Dieu?
Plutôt que c'est le temps de l'homme. Et c'est mettre en évidence que, au fond, la Bible raconte les réalités humaines. Elle ne raconte pas que ça, puisqu'elle parle d'une relation entre l'homme et la divinité. Mais quand elle parle de l'homme, la Bible est un dictionnaire d'anthropologie, c'est-à-dire un dictionnaire des réalités humaines, dans ce qu'elles ont de merveilleux et souvent, et aussi de malheureux. Et à ce titre-là, je trouvais très intéressant de me rendre compte, ça a d'ailleurs été l'un des, de lancement, de motivation d'un cours et d'un livre sur la hâte, c'est le fait que dans la Bible, on parle de la hâte. Et donc à ce titre-là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'en dit la Bible? De quelle action la Bible raconte qu'elle serait vécue en toute hâte?
Alors commençons par la Pâque des Hébreux en Égypte. Alors on ne va pas citer tout le passage, mais Yahvé dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, « Le 10 de ce mois, procurez-vous chacun une tête de petit bétail par famille. La bête sera sans tare, mâle. Alors l'assemblée entière de la communauté d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les deux montants et le linteau de la porte. » Je pense que les auditeurs connaissent ce passage. Et un petit peu plus loin, « Vous la mangerez ainsi, les reins sains, sandales aux pieds, le bâton à la main, vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque en l'honneur de Yahvé. » Et un peu plus loin, vous avez ce commentaire. « Nous sommes là dans l'essentiel de la démarche croyante d'un peuple, la relation à la divinité au travers des rites et des célébrations pour la maintenir vivante de génération en génération. Mais il y a une hâte à l'intérieur de cela. » Pourquoi le choix de commencer par ce texte?
Parce que c'est, selon moi, dans la Bible, le premier texte, du moins dans l'Ancien Testament, qui évoque cette question de la hâte, hein, autrement dit, cette question de l'urgence à se décider, à prendre le chemin, si on peut dire, de la libération, à entrer dans le processus de libération tel que Dieu le propose à son peuple. Et donc, ce qui me semble important de repérer, c'est que non seulement c'est un temps de libération, hein, que Dieu propose à son peuple, mais c'est un temps dans lequel le peuple doit se situer en toute hâte, parce qu'il y a urgence. Et c'est ça qui m'a semblé intéressant. Et que ce qui va conditionner... Alors pourquoi il y aurait une urgence? Il pourrait prendre le temps d'être libéré. Justement parce qu'il y a un contexte, si on peut dire, de temporalité, qui est le contexte de l'esclavage, avec un esclavage qui a duré. Mais il y a aussi le fait que la main de Dieu va passer sur les premiers-nés d'Égypte. « Je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte et vous échapperez au fléau destructeur. » C'est-à-dire que la question de l'urgence est liée à la question du temps, mais aussi à la question de la mort. Alors, pas la mort du peuple, encore que si, ils peuvent être, et ça a été le cas, ils peuvent être en risque de mort, soit du fait des Égyptiens, soit du fait de la traversée du désert, mais c'est aussi la mort des premiers-nés d'Égypte. Donc, il y a toujours une sorte d'oscillation, une sorte de tension entre la vie et la mort qui va nous amener, nous les êtres humains, y compris les croyants, à ce sentiment d'urgence dans ce que l'on a à vivre. Et ce que l'on a à vivre, c'est bien sûr une libération, par rapport à une servitude, par rapport à ce que sont nos lourdeurs et nos pesanteurs, mais c'est aussi une alliance, l'alliance avec Dieu. Et chaque fois, ce qui me semble ne pas être suffisamment, accroché à la dynamique croyante, c'est le fait qu'on devrait vivre cette démarche croyante dans une dimension d'urgence, et non pas dans une dimension, si on peut dire, de longueur et de langueur. Trop souvent, et même dans la démarche de prière,
Parce que là, c'est quand même comme une démarche de prière. Hein. Le rite, le sacrifice va inciter, si on peut dire, à rentrer dans la communion avec Dieu. Même dans la démarche de prière, on devrait vivre, il me semble, une certaine urgence.
Voilà, c'est sûr que ce n'est pas toujours l'idée que l'on a du temps de l'Église ou du temps liturgique.
Et ce n'est pas ça que l'on a...
Vous citez donc deux autres passages, je ne sais pas si on aura le temps de parler des deux, je vous laisserai choisir. Allez, on va peut-être choisir plutôt l'épisode de Zachée. Mmh. Zachée, donc cet homme que Jésus rencontre dans le Nouveau Testament et à qui il dit, donc il était collecteur d'impôts, Jésus passe, cet homme qui était de petite taille est dans un arbre, et Jésus lui dit « Zachée, descends vite car il me faut demeurer chez toi ». Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Tous murmuraient, il est allé loger chez un pêcheur, etc. etc. Probablement qu'une partie des auditeurs connaissent ce passage. Pareil, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage des Écritures ?
Parce que le terme de hâte n'y est pas, mais par contre, il y a cet empressement. Cet empressement de Zachée à monter à l'arbre, cette formule de Jésus, Zachée descend vite, pourquoi il lui dit descend vite hein. Et ensuite, Zachée et Jésus qui dit, aujourd'hui cette maison a reçu le salut. Donc il me semble que, à travers ce passage-là, c'est mettre en évidence combien, dans ce texte-là entre autres, mais aussi en général, le temps de la hâte, c'est le temps du maintenant, c'est le temps de l'aujourd'hui. C'est le temps de ce que l'on a à vivre, au moment où on le vit, avec ces trois temps, voir, comprendre et conclure. Autrement dit, le temps, si on peut dire, de chercher à voir, c'est ce que fait Zachée, il monte à l'arbre. Comprendre, c'est entrer dans une relation, il y a quelqu'un qui arrive, c'est Jésus, et là, il lui parle, même s'il lui dit vite, descends vite. Hein, vite, descends. Donc, c'est le temps de comprendre et conclure. C'est au moment où Zachée dit « Je donnerai aux pauvres la moitié de mes biens et ce que j'ai pris à quelqu'un, je lui rendrai multiplié par X. » Donc, il attend une conclusion. Et ce temps de voir, chercher à voir, je monte à l'arbre, de comprendre, j'entre en relation avec Dieu, et de conclure, je décide de donner de mes biens, c'est le temps de l'aujourd'hui. C'est un temps qui, on peut dire, qui est condensé dans ce récit et qui montre bien qu'il y a même là une urgence à vivre, par exemple, la relation. C'est ça qui me semble pressant à repérer.
Alors, un peu plus loin, vous avez cette phrase. « La Bible parlera de l'amour de Dieu et du désir de l'homme. Elle parlera d'un salut libérateur offert en rémission des péchés. Plus loin, la Bible propose ainsi une anthropologie qui relate les modalités de réponse à un appel, celui de Dieu. » Est-ce que, quelque part, si la hâte est le temps de l'homme, il ne dit pas, je vous repose un peu ma question, que j'ai posée au début de cette troisième émission, qu'il y a comme aussi, peut-être, une forme de hâte en Dieu, c'est-à-dire que pour le chrétien que vous êtes peut-être, je ne sais pas, en tout cas vous enseignez à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, à l'Institut catholique de Toulouse, le temps de la libération, le temps du salut, dit quelque chose en fait de la hâte que Dieu a à aller vers nous et à nous porter cette libération ou ce salut.
Non.
Non.
Non, pourquoi ? Puisque si la hâte est appuyée sur l'idée de la mort n'est pas en Dieu. Dieu n'est pas articulé avec cette idée-là, donc il n'y a pas dans le temps de Dieu le temps de la hâte. Parce qu'il n'y a pas dans le temps de Dieu le temps de la mort. Dieu est éternel, hein. Dieu est aujourd'hui éternellement présent. Donc à ce titre-là, il ne peut pas être, si on peut dire, ramené, référé, appuyé sur le temps de la hâte. Alors que l'être humain, parce qu'il est dans la finitude, peut être appuyé, référé, inscrit dans le temps de la hâte.
En tout cas, c'est comme ça qu'il s'adresse parfois à l'homme. Quand on voit par exemple les prophètes dans l'Ancien Testament, les appels ou les rappels sont vigoureux et urgents.
Selon moi, ce n'est jamais le temps de Dieu, même si c'est l'appel que le prophète adresse à l'homme, hein, de répondre en toute hâte. Ça, là, par contre, on rejoint ce que l'homme doit vivre. Mais ce n'est pas le temps de Dieu, selon moi, en tant que... La hâte serait inscrite dans ce que je viens de dire, à savoir la finitude. Et donc, Dieu étant éternellement vivant, éternellement aimant, éternellement présent, il n'est pas dans le temps de la hâte.
Dernière question, Henri Mialoc, si vous deviez reprendre quelques exemples pour vous frappants au cours de votre soit de votre vie, soit de votre pratique, et qui, pour conclure cette émission, pour nous aider peut-être à nous mettre en chemin, soit à réécouter cette émission, soit à appliquer ce que l'on a pu comprendre, qu'est-ce que ça change dans une vie quand on prend conscience de cette hâte au cœur de notre existence et qu'on se décide pour ce bonheur pour lequel on est fait?
Les exemples qui me viennent sont un peu triviaux. Si vous devez lire un livre, c'est important que vous regardiez à quel moment, combien il y a de pages, et en fonction du nombre de pages, vous allez déterminer votre façon de le lire. Si vous rentrez dans un livre, c'est important que vous sachiez quel est le temps que vous vous donnez, pour pouvoir, si on peut dire, prendre le temps de le lire. Donc, si vous inscrivez dans une temporalité un petit peu longue et un peu infinie, votre façon d'aborder ce que vous allez faire sera, si on peut dire, un peu traînant et peut-être pas obligatoirement très vrai. L'exemple qui me vient, c'est quand des gens partent en volontariat international, par exemple, des jeunes qui vont travailler dans des pays étrangers, en particulier des pays en voie de développement. Si on fait un travail de préparation à ce qu'ils vont faire dans leur volontariat international, dès le début, aussi bien les personnes qui concourent, qui œuvrent à les préparer, que moi-même qui suis intervenu auprès d'eux, on m'a demandé, et j'étais convaincu qu'il fallait faire comme ça, il fallait préparer le retour. Et que la façon pour eux de vivre leur volontariat international était liée au fait qu'ils avaient préparé le retour. Or, certains disaient « je pars et on verra bien ». Et ce qui se passait, parce que ce n'était pas déterminé par une fin, à savoir la fin et le retour, était généralement pas réussi à travers ce que me disaient les organisateurs de ces volontariats internationaux. Donc, la question, si on peut dire, de la butée, la question de la finitude, là en l'occurrence la question du retour, déterminait la façon, si on peut dire, d'investir ce volontariat à l'étranger. Tout a une fin, un dîner, une vie, un livre, une émission de radio, et c'est en fonction de cette fin-là, on le sent bien ici par exemple, que la question du temps détermine notre façon de parler et du coup ce que l'on dit. Cette urgence de l'essentiel, moi je le pressens déjà ici, à travers le fait qu'on n'a plus que quelques minutes, et ce que j'ai à dire c'est dans un temps qui est déterminé, donc je ne peux pas dire n'importe quoi, du moins je dois me décider à vouloir vous dire ce qui me semble essentiel.
Eh ben merci beaucoup Henri Mialoc de nous être fait entrer dans cette notion essentielle et pourtant pas simple. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, La hâte, un tempo pour aujourd'hui, paru aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.